Bonjour Gilles Platret.
Bonjour.
Des perquisitions ont eu lieu hier au ministère de l'économie dans le cadre de l'enquête préliminaire du parquet financier sur d'éventuels conflits d'intérêts du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. C'est une affaire qui est extrêmement compliquée. Mais au fond, est-ce que ça n'est pas la pratique du pantouflage qui est en question, c'est-à-dire ces allées et venues entre public et privé? Est-ce que ça n'est pas à ça qu'il faudrait réfléchir?
C'est exactement la bonne question à se poser. Je ne prononcerai pas sur le fond de l'affaire et les Républicains évidemment font confiance à la justice pour qu'elle développe les investigations qui sont en cours. En réalité, cette question pose un phénomène central qui est ces passages, parfois facilités, entre la fonction publique et le privé. En soi, ça n'est pas condamnable. La question, c'est de savoir si, lorsque vous exercez une fonction publique, vous êtes en capacité ou pas de retourner rapidement au monde privé et de vous servir des actes que vous avez commis, des fonctions que vous avez occupées, de l'influence que vous avez pu avoir, pour en faire profiter une entreprise privée.
Alors, c'est ça le fond de la question. Il y a une commission de déontologie qui est là pour dire oui, c'est possible ou non, il ne vaut mieux pas.
J'ai cru comprendre que la première fois que M. Kohler a voulu partir du ministère, il s'était vu opposer à un refus. Nous, on avait, au moment de la loi de moralisation qui s'était appliquée au personnel politique, au début du quinquennat de M. Macron, demandé qu'elle s'étende également aux conditions dans lesquelles certains hauts fonctionnaires peuvent retourner dans le privé. Et la majorité En Marche nous avait opposé, le gouvernement nous a opposé à un refus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous remettions cette question sur la table et que les choses soient claires, en particulier que la commission de déontologie rende des avis publics et qu'on soit sûr qu'elle soit bien indépendante, ce qui n'est pas forcément, je la mets pas en cause, mais en tout cas, les conditions de sa nomination n'assurent pas aujourd'hui son indépendance. Donc il faut qu'elle le soit et qu'elle agisse avec transparence. C'est vraiment un souhait que les Républicains expriment.
Emmanuel Macron est au Canada pour un sommet du G7. Ce sera la première fois qu'il retrouvera Donald Trump depuis sa visite aux États-Unis et la première fois donc depuis que Donald Trump a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien et imposé des taxes sur l'acier européen. Quel langage Emmanuel Macron doit cette fois tenir à Donald Trump?
C'est sûr que je pense que le temps de la diplomatie du bisou est terminé. Après le festival d'embrassade surfait qui a marqué la visite d'État du président français à la Maison-Blanche il y a quelques semaines, aujourd'hui nous revenons à la réalité des choses. Sans doute y avait-il eu beaucoup trop d'empressement à donner des signes de suramitié et tout ça ne faisait pas assez sincère. Nous revenons, pardonnez-moi, à la réalité des prix. Trump a été élu sur un programme qui est un programme protectionniste, isolationniste pour les Américains. Alors on est pour, on est contre, j'ai aucune sympathie pour le personnage que je trouve par certains aspects très détestable, mais en tout cas il applique son programme et il essaye de restaurer une balance commerciale américaine qui est extrêmement dégradée. Donc nous en souffrons. La vérité c'est qu'on peut pas regarder en spectateur ce qui est en train de se passer et que l'Europe, puisque c'est la bonne échelle pour répondre, l'Europe doit aujourd'hui répondre à ces droits de douane sévères que les États-Unis veulent appliquer sur un certain nombre de productions acier et aluminium en particulier venant de l'Europe et par des droits de douane élevé aussi sur d'autres produits américains. On n'a pas le choix, on ne peut pas subir, être la seule partie du monde qui accepterait de subir sans avoir à se défendre.
Alors sur ce dossier, l'Europe a peut-être les moyens donc de prendre des mesures de rétorsion. En revanche, sur la question du nucléaire, la décision américaine de se retirer de l'accord est très lourde de conséquences pour les entreprises européennes et donc françaises qui avaient investi en Iran après la signature de l'accord de 2015. Total a renoncé, Peugeot est sur le point de le faire. Est-ce que finalement, nous sommes totalement impuissants là face à cette décision des États-Unis.
C'est vrai que le poids politique et économique d'une puissance comme la puissance américaine nous pose un sérieux problème dès lors qu'elle ne joue plus le jeu. Je pense que la seule réponse que nous puissions avoir, c'est nous-mêmes de nous attaquer à certains intérêts américains. Une plainte va être déposée ou a été déposée à l'OMC. Donc c'est évident que l'organisation internationale doit s'en saisir et peut-être qu'elle aura des mots à dire. Elle l'a déjà fait dans d'autres périodes. Rappelez-vous, sous d'autres administrations américaines, et on a déjà eu des tensions commerciales et l'OMC avait pris ses responsabilités. Moi, ce que je souhaite simplement, ce que nous souhaitons républicains, c'est que l'Europe, parce que nous y croyons, on y reviendra peut-être, l'Europe doit aujourd'hui jouer son rôle de contrepoids et ne pas laisser les États-Unis de M. Trump défaire, détricoter sans rien dire et sans réagir les relations internationales que nous avons bâties sur le libre-échange.
La ministre française de la Justice indiquait hier que ce sont près de 450 détenus radicalisés qui vont sortir de prison d'ici à la fin de l'année 2019, parmi lesquels une cinquantaine de terroristes islamistes, c'est-à-dire condamnés pour terrorisme. Elle précise que le gouvernement est, pour reprendre son terme, arc-bouté, donc très mobilisé sur le suivi de ces individus. Laurent Wauquiez défend la rétention de sûreté pour ce type de personnes, ça veut dire, selon vous, qu'il faudrait l'appliquer de manière systématique. Donc ces 450-là seraient finalement maintenus dans une situation de privation de liberté.
Mais pas que. La vérité, c'est que on nous oppose toujours l'état de droit. Nous sommes défenseurs de l'état de droit, mais le droit peut bouger dans ce pays. Nous sommes dans un état de guerre, en réalité. Imaginez une seule seconde. Mettons-nous dans un contexte, la Première Guerre mondiale, dont on fête le 100e anniversaire de la fin cette année. Imaginez qu'on ait relâché des milliers de prisonniers allemands pour les laisser partir dans les tranchées ennemies, tirer sur nos propres soldats. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec ces terroristes. C'est-à-dire qu'on a des bombes en puissance dont on sait qu'ils ont maintenu des relations, qu'ils ont d'ailleurs radicalisé d'autres détenus, et on va gentiment les laisser sortir en disant « Mais vous inquiétez pas, Français, on est en train de mettre en place une cellule de suivi. » Mais la vérité, c'est qu'il faut prendre conscience, et c'est tout l'effort des Républicains, de ce que la France est en guerre et qu'elle se donne les moyens. Et la révision constitutionnelle, au lieu de s'attaquer à des choses absolument primordiales, comme la réduction du nombre de parlementaires, ou le mode de scrutin, ferait bien mieux de s'intéresser aux conditions constitutionnelles qui nous permettraient de mettre en place la rétention de sûreté, non seulement pour ceux qui s'apprêtent à sortir de prison, mais pour ceux qui sont dehors aujourd'hui, qui présentent une menace imminente pour l'ordre public et dont nous souhaitons l'internement préventif.
Ça suppose donc une modification du droit.
Oui.
Et ça suppose aussi des infrastructures, parce que
oui.
En l'état actuel des choses, on n'a pas forcément la place.
Oui, on est d'accord. Nous sommes favorables, et on l'a dit, à un programme de construction de bases de prison et surtout de quartiers qui soient réservés pour qu'il n'y ait pas de collusion et finalement que ces détenus extrêmement dangereux ne contaminent pas d'autres détenus de droit commun qui finissent par devenir eux-mêmes convaincus des théories mortifères de l'islam radical. Donc, il faut juste, et ça c'est tout l'effort des Républicains, on pourra nous accuser de faire de la surenchère, de courir après qui vous voulez. La vérité, c'est que la France est en guerre et que pour le moment, elle ne s'est pas encore donné les moyens de la mener et de la gagner.
Vous avez évoqué l'Europe il y a quelques instants. Dans une tribune publiée mardi, Laurent Wauquiez s'en prend assez violemment à l'Union européenne. Il y dénonce, je cite, une Europe laboratoire d'une mondialisation déracinée et apatride, à laquelle il oppose une Europe fière de ses racines gréco-romaines et judéo-chrétiennes. C'est une tribune qui est co-signée par un certain nombre de cadres des Républicains, mais est-ce que ça reflète la vision? Est-ce que c'est désormais la ligne des Républicains?
Cette tribune qui est co-signée par les présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat et pour notre groupe au Parlement européen, elle reflète de deux choses. Et je voudrais qu'on considère bien que les Républicains s'appuient sur deux jambes. Il y a la jambe que vous venez d'exprimer, c'est-à-dire ce reproche que nous faisons à l'Europe d'être une machine technocratique qui s'est éloignée de la volonté populaire et qui a déraciné les peuples de ce qu'était leur histoire, tout simplement, leur histoire profonde sur le territoire européen. Et puis, il y a l'autre partie, elle vous a pas échappé non plus dans cette tribune, c'est la foi dans une Europe renouvelée qui puisse continuer à garantir la paix à condition qu'elle protège les citoyens dont elle a la charge. Donc, nous serons dans cette campagne, on a un temps fort à Menton, comme vous le savez, le 30 juin, puisque nous lançons notre Conseil national de réflexion sur les thématiques européennes, et cette tribune est destinée à alimenter cette réflexion. Nous serons sur ces deux piliers-là. Nous contestons radicalement les dérives d'une construction européenne qui aujourd'hui est complètement déracinée et éloignée des préoccupations des gens et qui les ennuie plus qu'autre chose, mais nous croyons fortement, contrairement à d'autres pays, d'autres partis qui sont europhobes, que l'Europe est notre horizon à condition qu'elle marche, et c'est ce que nous avons proposé tout simplement.
Ça sera la ligne des Républicains pendant les élections européennes.
Il y a trois lignes qui vont se dessiner dans ce scrutin. Vous avez une ligne fédéraliste, c'est celle de M. Macron.
Ouais.
Vous avez une ligne europhobe, c'est celle de Mme Le Pen et de M. Mélenchon. Et vous aurez une ligne qui sera très exigeante, qui dénoncera ce qui ne va pas en Europe et qui voudra apporter des solutions pour que ça aille mieux, c'est la ligne des Républicains.
Merci Gilles Platret.
Merci à vous.